sur Radio B, Alain Goudard. Bonjour et bienvenue à tous dans Résonance. Résonance, l'émission radiophonique de Résonance Contemporaine, pôle ressources départementales et régionales culture et handicap, musique contemporaine. Résonance, une nouvelle émission pour vous et avec vous. Se rappeler le passé, observer le présent et additionner le tout pour attendre demain. Parole du peuple Peul, nomade du Mali. Invention à deux voix vous propose des séries d'entretiens avec des personnalités du monde artistique, littéraire, philosophique, anthropologique, sociologique ou politique. Aujourd'hui, Invention à deux voix accueille Cécilia Devarine, plasticienne de formation et qui, notamment, a été à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Et vous vous engagez avec curiosité dans l'animation culturelle et découvrez peu à peu les musées et expositions à travers les regards, les pratiques et les attentes des publics. Convaincue que la dimension culturelle d'un individu et d'un groupe social est essentielle à sa survie et qu'il n'est pas question de faire confiance aux marchands d'images faciles pour nous aider à vivre ensemble. Vous vous engagez dans le nouveau métier de médiateur culturel à la fin du XXe siècle avec enthousiasme. L'expérience vous montre que cette vie culturelle doit être animée, nourrie, développée et enrichie constamment par la participation des citoyens et dans le respect des racines culturelle de chacun.
Depuis l'âge de 6 ans, j'avais la manie de dessiner la forme des objets. Vers l'âge de 50 ans, j'avais publié une infinité de dessins. Mais tout ce que j'ai produit avant l'âge de 70 ans ne vaut pas la peine d'être compté. C'est à l'âge de 73 ans que j'ai compris à peu près la structure de la vraie nature, des animaux, des herbes, des arbres, des oiseaux, des poissons et des insectes. Par conséquent, à l'âge de 80 ans, j'aurai fait encore plus de progrès. À 90 ans, je pénétrerai le mystère des choses. À 100 ans, je serai décidément parvenu à un degré de merveille. Et quand j'aurai 110 ans, chez moi, soit un point, soit une ligne, tout sera vivant. Je demande à ceux qui vivront autant que moi de voir si je tiendrai ma parole. Écrit à l'âge de 75 ans par moi, autrefois Okusai, aujourd'hui Gwakyo Rojin, le vieillard fou de dessin.
Résonance sur Radio B, Invention à deux voix, reçoit Cécilia Devarine, médiatrice culturelle. Et nous venons d'entendre un extrait de la préface d'un livre d'Okusai qui s'intitule « Les 100 vues du mont Fuji ». J'évoquais le début de votre parcours, et puis ce parcours vous a amené aussi à endosser plusieurs rôles au fur et à mesure de celui-ci, des rôles d'animatrice, formatrice, responsable de service, chargée des publics spécifiques, chargée aussi des outils d'aide à l'interprétation, et ce, dans des institutions muséales de la région lyonnaise, je pense au Musée d'art contemporain de Lyon, ou à l'Institut d'art contemporain aussi également de Villeurbanne, au Musée des arts aussi de Lyon, et puis à un moment donné, vous quittez cette sphère d'intervention pour aller, comme peut-être vous l'avez exprimé, de l'autre côté du miroir, finalement social, en devenant aujourd'hui aussi responsable du développement culturel d'un hôpital psychiatrique, le centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu à Lyon. Et finalement, c'est dans ce nouveau contexte que vous participez, vous recherchez ce que peut être l'invention d'une vie culturelle et poétique qui contribue à tisser des liens enrichis entre l'institution et la cité. Très heureux de vous accueillir et bonjour à vous, Cécilia de Varine.
Bonjour, Alain Goudard.
Voilà, alors merci d'avoir accepté cette invitation et puis aussi de nous recevoir pour cet entretien d'invention à deux voix dans le château de Lusigny sur Ouche, un très bel édifice. Magnifique d'ailleurs, du XVIIe siècle. On aura l'occasion peut-être aussi d'y revenir dans notre entretien. Et chers auditeurs, nous sommes ici au cœur de la Bourgogne, à 15 km de Beaune, au milieu de ces vignobles aussi. Et puis, un emplacement, on peut en dire quelques mots quand même, qui s'est élevé finalement sur une des emplacements d'une ferme, et puis cet édifice s'est construit à cet endroit-là.
Oui, c'est un édifice qui a pris racine, on pourrait dire, dans ouais. l'eau déjà, c'est important.
Oui, hein, il y a la notion d'eau aussi, très importante.
Sur pilotis, enfin les fondations du château sont dans l'eau parce qu'ici on est dans un contexte particulièrement humide. Hein. L'Ouche prend sa source à peu près 800 mètres. Il y a plusieurs sources et puis il y a des bras de l'eau, d'eau comme ça, qui entourent un peu ce site, qui ont été canalisés, drainés, aménagés au fur et à mesure des siècles. Et on sait d'après les archives qu'à partir du XIIe, XIIIe siècle, on a une ferme fortifiée ici, hein, une sorte de petit château fort, on va dire, qui commence à prendre place. À l'époque, le village est en amont, c'est-à-dire près des sources. Et le château, en fait, protège en fait, la combe, oui, referme la combe. Et puis au XVIIe siècle, alors à la fin du XVIIe siècle, il y a enfin la paix entre la Bourgogne et la Franche-Comté, qui aujourd'hui sont rassemblées en une seule région et qui à l'époque étaient en guerre depuis des décennies, guerre très sanglante et très meurtrière. Et ça y est, la paix est enfin signée et à la fin du XVIIe siècle, on va voir fleurir un peu en Bourgogne un ensemble de châteaux qui sont des châteaux qui n'ont plus rien à voir avec les châteaux défensifs.
C'est ça.
Précédents, qui sont des châteaux au contraire de villégiature, ouverts sur l'extérieur, complètement dédiés au paysage environnant. Voilà.
Ouais,
donc c'est un bâtiment qui est pour ça très attachant parce qu'il a, alors c'est pas très facile pour les propriétaires, mais il a 65 fenêtres qui ouvrent sur le parc.
Oui, c'est
et
énorme.
On est constamment, il n'y a pas une pièce qui n'a pas une fenêtre sur le
c'est
parc.
C'est ça. Voilà. On voit cette envie de lumière, d'ouverture, et effectivement plus de caractère défensif, mais au contraire de villégiature.
On est dans les arbres ici.
On peut noter aussi, puisqu'on parle un peu de cet endroit quelques instants, il y a un magnifique escalier aussi également.
Oui, alors c'est ce qui fait que ce bâtiment a été inscrit au patrimoine, enfin l'inventaire du patrimoine, mais aussi que l'escalier est effectivement aujourd'hui classé, enfin depuis les années 40, escalier monumental assez extraordinaire par rapport à la bâtisse, qui fait à peu près entre un quart ou un cinquième du bâtiment,
oui.
ce qui est énorme,
ce qui est énorme,
et qui est remarquable par son architecture. Donc,
vous seriez d'accord, on l'évoquait en préparant l'émission, on évoquait un autre château en amont de l'émission et le château de Cormatin qui est pas très loin et qui lui aussi a un escalier incroyable, d'ailleurs unique, puisque si je me trompe pas, vous me corrigerez, c'est une copie en tout cas puisqu'il avait des relations avec Catherine de Médicis et que lui, amant à un moment donné de la reine, a voulu faire aussi dans son château, puis par rapport à toutes les démarches de reconnaissance qu'il cherchait à obtenir de la part du roi, en tout cas fait construire dans ce château aussi un escalier qui est la copie finalement de ce qu'on voyait aux Tuileries du château de Catherine de Médicis. Et là, il lui ressemble incroyablement.
Tout à fait. On imagine que c'est le même architecte ou son élève, parce qu'on a un décalage de génération qui pourrait faire penser que c'est peut-être une copie postérieure à celui de Cormatin, qui lui-même est très très proche dans le style d'un escalier d'un couvent lyonnais. Donc
c'est
on a une sorte de filiation comme ça par la vallée de la Saône entre plusieurs escaliers qui est intéressante et qui renvoie effectivement au palais de Catherine de Médicis.
Alors voilà, c'est un endroit, un lieu aujourd'hui de partage, de rencontre aussi, que vous essayez de faire vivre aussi en même temps.
Alors c'est un lieu dont j'ai repris la responsabilité en 2012. C'était mon père qui s'en occupait et qui le portait depuis 70 ans. Et il avait cherché lui-même pas mal de solutions pour faire vivre ce lieu et j'ai essayé d'en chercher d'autres.
D'autres, oui.
Et celles qui correspondaient aussi à mon parcours, on en reparlera.
Tout à
mais
fait.
C'était effectivement d'ouvrir ce lieu assez largement sur l'extérieur, sur les gens, sur des nouveaux, des nouvelles personnes, des nouveaux publics, des gens qui... Alors c'est toujours assez touchant parce qu'on a une partie en gîte et il y a souvent des gens qui nous disent bah, c'est la première fois que je dors dans un château. Alors il y a un peu ce côté un peu d'ouverture vers des gens qui n'ont pas forcément accès à ce patrimoine. Et puis qui tout d'un coup ben, vivent quelques jours avec nous dans ce lieu un peu magique parce que très 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 authentique dans son rapport à la nature, à l'environnement et à l'eau, au ciel, aux arbres, etc.
Alors effectivement, quand on parle comme ça par rapport à ce lieu, d'un certain public qui vient aussi à la découverte finalement et qui franchit quelque part le seuil. Alors peut-être je me disais que c'était pour commencer notre entretien intéressant de peut-être de rappeler justement le mot seuil et que celui-ci repose à la fois peut-être sur deux plans une racine indo-européenne solum qui indique le fondement, la base d'un établissement humain. Donc là, je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui est fort. Et puis peut-être, deuxièmement, ce terme de le seuil, en tout cas, sert aussi à exprimer également le début de quelque chose. Mieux encore, la limite marquant le passage à un autre état. Alors, il me semble, par les questions qu'on va essayer un petit peu d'évoquer ensemble, qu'on touche à quelque chose de très prégnant, finalement, dans le champ aussi de la médiation culturelle, puisque ça va être un peu le sujet de notre entretien aujourd'hui, et peut-être ce à plusieurs niveaux. Alors, peut-être que je pourrais résumer ça au travers de trois questions, par exemple. La première en disant, et vous l'évoquiez finalement, quand ces gens viennent découvrir finalement ce lieu, rentrent en contact avec un lieu comme celui-ci, est-ce que je peux m'autoriser, de par ma place au sein de la société, de par ma propre biographie, mon histoire, à franchir le seuil de certains lieux de culture. Une deuxième manière d'aborder aussi la question que l'on pourrait se poser, est-ce que l'on me donne aussi la possibilité de franchir le seuil de ces lieux de culture, de ces institutions culturelles qui donnent à entendre, à voir, à comprendre, à sentir ce qui a fait que des traces, des signes, sont devenus, à un moment donné, objets de culture, objets d'art. Et puis peut-être une dernière, mais qui est encore une autre manière, finalement, d'approcher peut-être toutes ces questions. Les hommes aussi sont des êtres conditionnés, parce que tout ce qu'ils rencontrent se change immédiatement aussi en condition de leur existence. Et font que lorsque l'on franchit le seuil, également peut-être d'une de ces institutions culturelles où on évoquait ce château aussi, qui lui aussi a une certaine présence par la symbolique aussi qu'il représentait, celle-ci va aussi induire une attitude, va induire aussi une posture, va influencer quelque part mon regard à ce lieu, à cette institution, à ce qu'elle abrite, va même peut-être parfois aussi pouvoir influencer ma pensée sur ce que je vais voir, entendre et sentir. Je me disais que peut-être avec cette notion de seuil et au travers de ces trois approches finalement de cette question, ça pouvait être par là que nous pouvions ensemble ouvrir en tout cas cet entretien.
Alors je vais moi-même renvoyer au titre même de votre émission Résonance parce que hier nous faisions un tour un petit peu du parc avec Géraldine Trubert que vous avez rencontré tout à l'heure.
Donc une artiste.
Qui vit à Lyon aujourd'hui, qui fait du dessin, des travaux, qui met en récit des lieux. En fait, je crois qu'elle dit un peu, elle parle un peu comme ça de son propre travail et qui fait un très très beau travail, très poétique. Et je lui demandais de m'aider à réfléchir sur la couleur qu'on pourrait mettre sur des portes et des volets d'une cour qui est à l'arrière, et on avait essayé de définir un certain nombre de couleurs, et puis à un moment donné il y avait la porte qui ouvrait vers le parc, c'est-à-dire vraiment la porte du passage, et je lui parlais de ma fascination quand j'ai été en Chine. J'ai été deux fois en Chine et je n'ai pas été dans beaucoup d'endroits. J'étais juste à Shanghai, mais on a visité un certain nombre de temples. Et sur ces seuils, effectivement, sur le fait qu'on doit faire un acte, on doit lever la jambe. Enfin, on ne peut pas ne pas voir ce passage très symbolisé matériellement quand on passe la porte d'un temple. Et ça me touche beaucoup parce qu'effectivement, on manque quelquefois de limite symbolique, et là on le sent très fort. Alors mon métier effectivement c'est d'aider et d'accompagner les gens à passer des seuils. Et l'image qui m'est venue en vous écoutant me poser des questions, c'est une anecdote qui m'est arrivée au musée des Beaux-Arts de Lyon où j'ai travaillé donc 16 ans et où à un moment donné je me suis rendu compte que certains publics, certaines personnes, pour les accueillir, il fallait que j'aille place des terreaux, c'est-à-dire que je sorte moi-même de l'institution. Si je les attendais comme à l'habitude, à l'intérieur, c'était pas possible, ils ne viendraient pas, ils ne passeraient pas le seuil seul. Il fallait que j'aille devant, sur la place publique, à la rencontre, dans l'espace commun, qui est l'espace de la rue,
oui, voilà, c'est
pour
ça.
Pouvoir là les accueillir et les accompagner dans ce passage du seuil. Et c'est vraiment une idée qui est devenue très forte du coup pour moi, c'est jusqu'où l'institution culturelle est-elle prête à aller pour aller chercher les gens là où ils sont, les entendre là où ils sont et les accompagner jusque dans quelque chose qui va forcément provoquer un changement très fort.
Absolument.
Dans leur représentation, quelquefois, dans leur fondement culturel, quelquefois, même simplement remettre en cause ou décaler la notion
ou
de
décaler,
beau,
c'est ça
ou d'esthétique, ou de plaisir esthétique, etc. Et ce passage-là, qui quelquefois peut être très douloureux, parce que ce n'est pas évident de changer sa façon de voir la beauté, ce passage-là, il faut un accompagnement,
ça veut peut-être dire, c'est là où la notion d'accompagnement est importante. On peut faire le parallèle aussi avec la notion d'apprentissage. Par exemple, dès qu'on apprend quelque chose, on sait qu'on est dans une phase de déstabilisation. On a un certain nombre d'acquis, de choses sur lesquelles on a l'habitude d'être, de naviguer et de tracer son chemin. Et à un moment donné, la rencontre fait que quelque chose de nouveau arrive et se confronte, auquel on se confronte sous des formes très différentes, mais du coup me déstabilise. Et bien sûr, si je suis accompagné dans l'apprentissage, où tout dépend comment cette rencontre s'effectue, à un moment donné, il va y avoir une remontée, je dirais, un point B qui va faire que je m'enrichis de cette nouvelle chose. Mais ça veut dire aussi comment je suis en capacité d'accueillir aussi cet élément nouveau. Est-ce que je suis capable de quelque chose que je ne connais pas, qui vient d'ailleurs ? Comment je vais pouvoir être à l'écoute de cette chose ? Et est-ce que, effectivement, dans le fait d'aller accompagner et chercher l'individu au-delà, dans l'espace commun, ça aussi je crois que c'est important, dans cet espace commun, aller chercher l'individu pour qu'il puisse franchir le seuil et aller découvrir une part d'inconnu quelque part, comment je vais être dans ma capacité aussi à la fois à être... Alors comment je peux les accompagner quand c'est le rôle du médiateur, et en même temps comment je peux les accompagner sans m'enfermer dans une posture de savoir ou de dire c'est moi qui sais et c'est moi qui vais vous accompagner à savoir comment il faut savoir.
C'est ça qui est très compliqué, parce que je crois fondamentalement qu'effectivement il y a une éducation du regard, il y a une éducation
c'est
de l'écoute,
certain.
Il y a une éducation, on est tous passés par là, il y a d'ailleurs moi il y a plein de choses que je ne sais pas entendre et que d'autres savent tout à fait entendre.
Bien sûr.
Il faut être accompagné, il faut un peu acquérir un certain nombre de savoir-faire, de savoir entendre, de savoir penser, de savoir, et ça on sait qu'effectivement ça va déstabiliser, ça va mettre en mouvement, donc déstabiliser, donc déséquilibrer le temps, comme quand on marche, c'est-à-dire
c'est
on
ça.
Lève une jambe, on se déséquilibre. Et cette mise en mouvement, elle n'est pas du tout évidente, surtout pour les gens qui sont les plus fragiles. Parce que si j'ai certaines certitudes culturelles, ben je vais renvoyer l'autre qui me fait trop changer. J'ai de la force pour le renvoyer ou pour garder mes fondamentaux et mes certitudes. Mais si je suis avec quelqu'un d'assez fragile, socialement, culturellement, même physiquement, psychiquement, je vais être avec quelqu'un de plus sensible, plus en capacité de se mettre en mouvement, mais qui peut être plus déstabilisé encore par le changement. Donc là, j'ai une forme d'accompagnement qui doit trouver sa place. Et alors, effectivement, la question du savoir, la place du savoir, qui doit... à quel endroit je le mets dans l'accompagnement, sachant que pour moi, la médiation culturelle commence à la signalétique directionnelle d'un établissement. C'est-à-dire comment on trouve une salle de spectacle, comment on trouve un musée. Ça commence aussi avec la façon dont je suis accueillie physiquement, comment je peux m'asseoir à l'entrée d'un établissement. Je pense qu'on ne pense jamais assez au corps visiteurs et des spectateurs.
Tout à fait.
Et très souvent, alors ça, on s'en rend compte quand on travaille avec des personnes en situation de handicap, parce
c'est
que forcément,
elle
le corps.
Elle nous renvoie forcément
encore,
au corps,
voilà,
bien sûr.
Et beaucoup plus dans la souffrance, souvent. Mais de quoi qu'il en soit, c'est un peu la même chose intellectuellement, moralement, psychiquement. C'est-à-dire comment je vais être accompagnée, comment je vais avoir des points d'appui. Par exemple, quand on travaille avec des enfants psychotiques, on se rend compte qu'ils aiment beaucoup être adossés. Ils ont besoin d'un dossier au siège sur lequel on s'assoit, ou alors d'être adossé à un mur pour écouter, pour se concentrer. Et en fait, tout le monde est pareil.
Oui,
c'est-à-dire, bon, on a plus ou moins de capacité d'adaptation, voilà. Mais en fait, on aime tous être adossé à quelque chose pour pouvoir accéder à du neuf, accéder à du changement.
Est-ce qu'on pourrait dire aussi, justement, avec ces micro-choses, qu'à un moment donné, là, on parle du seuil, là aussi, pour regarder encore cette image, encore quelques instants, et se placer sur le seuil, c'est aussi... symboliquement à ce moment-là, se mettre sous la protection aussi du maître de la maison, d'être accompagné.
Oui, c'est vrai. Et je pense que les postures d'accueillants dans les établissements sont toujours très importantes, hein, dans tous les établissements culturels, ou dans tous les lieux artistiques, ou dans les lieux de patrimoine comme ici. C'est-à-dire à quel endroit donc le maître de maison, jusqu'où est-il prêt à s'avancer pour aller chercher la personne, mais aussi que la personne qui arrive se mette un peu entre ses mains.
C'est ça.
Et se mettre.
Il y a cet abandon de l'un vers l'autre, et bien sûr de la confiance. À partir de là, qu'est-ce qui va faire que du coup la confiance, enfin, je peux être tout à fait ouvert à cette rencontre, ce vers quoi elle va m'emmener, et à des choses inconnues et déstabilisantes, comme on disait tout à l'heure. Et en même temps, pour celui qui va accueillir, comment lui aussi il va être dans l'abandon aussi d'un certain nombre de choses pour pouvoir être en capacité tout l'inconnu qu'il arrive à lui et auquel il sait qu'il va essayer aussi, non pas d'inculquer pour inculquer, mais que l'objet qui va servir de la rencontre va pouvoir mettre en mouvement les deux individus et les cultures des deux individus.
Ouais, alors très souvent, en tant que médiateur culturel, on se rend compte que les gens s'abandonnent peu. C'est-à-dire que quelquefois, il faut compter sur un abandon postérieur. C'est-à-dire la personne a même de la réticence, a même se raidir par rapport à une situation nouvelle de découverte.
Peur peut-être de se sentir je ne sais pas, ou de cette notion de savoir, de se dire, peut-être d'être, avoir un peu de, finalement, de culpabilisation, de savoir non savoir, ou tout dépend.
Alors il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a la question de l'imaginaire avant, c'est-à-dire qu'est-ce que je me suis représenté avant de passer le seuil. Mais ça, c'est pareil dans les voyages. Hein.
Oui.
Je pars à Bali, je pars à Venise. J'ai mes représentations. J'ai des cartes postales dans la tête, j'ai des images. J'attends un certain degré de plaisir.
Oui, tout à fait.
Et puis il y a une réalité qui se présente à moi et qui. Alors ça, par exemple, quand j'étais en Chine, j'étais très déstabilisée. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais c'est idiot de s'attendre à quelque chose. On pourrait se dire, mais on s'attend toujours à quelque chose.
C'est ça,
et l'autre jour, il y a une dame qui est venue ici dans une ouverture au public et qui a été très désagréable, qui était très déçue. Et donc, je l'ai poussée un peu dans ses retranchements. Je disais, mais vous êtes déçue de quoi exactement? Et elle attendait autre chose. Ce qu'elle avait dans la tête avant de rentrer, c'était autre chose que ce château-là. C'était, elle m'a dit, j'attendais plein de tableaux, j'attendais plein de choses. Et il n'y avait pas. Et c'était à chaque fois, il y avait une sorte de déception comme ça. Mais, et puis le parc, ce n'était pas assez entretenu pour elle. Et la forme n'était pas ce qu'elle attendait.
Ouais.
Et en fait, on est toujours comme ça. Et le médiateur, c'est la plus dure part de son travail. C'est d'amortir cette déception de la personne qui était venue accueillir quelque chose et puis ça n'est pas ce qu'il attend et il faut à chaque fois être dans cette déception. Alors, quand on travaille dans un musée des Beaux-Arts, par exemple, on le sent très fort quand on arrive dans la partie moderne parce que là, tout d'un coup, la notion de beau est très ébranlée.
Bien sûr.
Et beau, dans une certaine tradition culturelle, c'est techniquement bien fait et joli.
Joli,
c'est-à-dire quelque chose qui ne heurte pas le regard. Et puis à un moment donné, on passe une porte, juste un autre seuil, et là, clac, on se retrouve face à Picasso, face à des abstraits, face à des choses même très violentes quelquefois. Et toute la notion de beau est ébranlée. Et là, il faut, le médiateur, il est là pour accueillir aussi ce moment du passage, quoi.
C'est ça. Et c'est toute la difficulté. C'est-à-dire, on pourrait aussi, pour toute personne qui est dans la transmission, finalement, de quelque chose, à un moment donné, c'est comment, on va garder le mot d'accompagnement de celui ou de celle qui s'aventure, se perd aussi, parce que, par rapport à ce que nous venons de dire, est en quête d'éléments précis, mais en réalité, c'est pas ça. Et en tout cas, ça l'amène ailleurs que ce qu'elle ne pensait. Mais en même temps, c'est tout notre chemin, finalement. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le chemin en train de se faire, on ne sait pas ce qu'il va être le lendemain et ce vers quoi. Donc là aussi, on parlait d'éducation aussi tout à l'heure. C'est une manière aussi peut-être... alors chacun là a des endroits très différents, tout dépend dans ce que chacun vit, aussi bien dans son travail que dans sa biographie personnelle, dans sa biographie familiale, etc. Ou est-ce que je peux me mettre en qualité permanente d'être à l'écoute de la découverte de ce qui va se faire sur mon chemin et d'avancer et de devenir au fur et à mesure de ces rencontres, mais que in fine, je ne sais pas ce qu'elles vont être. Alors c'est angoissant, bien sûr, quelque part.
Et c'est là où il y a un éloge de la curiosité et de la diversité. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de convaincre les gens. Il ne s'agit pas de leur imposer. Parce que ça, je crois que c'est impossible d'ailleurs, enfin, où ça se retourne très vite. Mais il s'agit de réouvrir des possibles, en fait. Hein. Donc, si je viens écouter un concert d'Alain Goudard et que je suis déstabilisée, etc., parce que j'ai jamais entendu ces sonorités-là, parce que j'ai jamais vécu ces sensations-là, mais ça réouvre un nouveau champ.
Ça
réouvre du possible. Et c'est ça qui me semble le plus important, parce que ce qui me semble difficile dans notre univers culturel très particulier qui est l'univers culturel français, c'est que ce qui nous a piégés toutes ces dernières décennies, c'est la certitude quasiment que notre culture est universelle. Et je pense que ça nous a complètement piégés dans un regard où finalement c'était une évidence d'aller au musée. Il suffisait d'être accompagné pour passer la porte. C'était une évidence d'aller au concert classique, de musique classique, où c'est une évidence d'avoir envie d'écouter de la musique classique. Ben non, c'est pas une évidence. Et c'est pas du tout dans tous les apprentissages culturels que je vais avoir envie d'aller vers ces formes-là. Et cette déconstruction d'une certaine universalité de la culture qui me semble nécessaire aujourd'hui, elle est la clé, à mon avis, d'un certain vivre ensemble autour de l'objet culturel qui peut être vraiment intéressant.
Seul, sur le quai désert en ce matin d'été, je regarde du côté de la barre, je regarde l'indéfini. Je regarde et j'ai plaisir à voir petit, noir et clair, un paquebot qui entre. Il apparaît au loin, net et classique à sa manière, laissant derrière lui dans l'air distant la lisière vaine de sa fumée. Il entre, et le matin entre avec lui. Et sur le fleuve, ici et là, s'éveille la vie maritime. Des voiles se tendent, des remorqueurs avancent, de frêles embarcations jaillissent derrière les bateaux du port. Il y a une vague brise, mais mon âme est avec ce que je vois le moins, avec le paquebot qui entre, parce qu'il est avec la distance, avec le matin, avec l'essence maritime de cette heure, avec la douceur douloureuse qui monte en moi comme une nausée, comme un début de mal de mer, mais dans l'esprit. Je regarde de loin le paquebot avec une grande indépendance d'âme, et au fond de moi commence à tourner un volant, lentement. Les paquebots qui le matin passent la barre charrient devant mes yeux le mystère joyeux et triste des arrivées et des départs. Il charrie des souvenirs de quais lointains et d'autres moments d'une autre façon de la même humanité en d'autres ports. Tout abordage, tout largage des amarres est, je le sens en moi comme mon propre sang, inconsciemment symbolique, terriblement menaçant de significations métaphysiques qui perturbent en moi celui que j'ai été. Ah, le quai est tout entier une mélancolie de pierre. Et lorsque le navire se sépare du quai, et qu'il devient soudain manifeste qu'un espace s'est ouvert entre navire et quai. Il me vient, j'ignore pourquoi, une angoisse récente, une brume de sentiments de tristesse qui brille au soleil de mes pelouses d'angoisse comme la première fenêtre où frappe le petit jour et m'enveloppe comme le souvenir d'un autre qui serait mystérieusement mien. Ah, la fraîcheur des matins où l'on arrive et la pâleur des matins où l'on s'en va quand nos entrailles se crispent et qu'une vague sensation proche de la peur ancestrale de s'éloigner et de partir, de la mystérieuse appréhension ancestrale devant l'arrivée et le nouveau, nous rétrécit la peau et nous remplit d'effroi quand tout notre corps angoissé, comme s'il était notre âme, ressent une inexplicable envie de pouvoir sentir autrement tout cela, une nostalgie de quelque chose, une perturbation des sentiments envers quelle vague patrie, envers quelle côte, envers quel navire, envers quel quai. Si bien que la pensée en nous tombe malade, et seul reste un grand vide au-dedans de nous, une satiété creuse des minutes maritimes, une inquiétude vague qui serait douleur ou ennui si elle savait comment le devenir. Cette matinée d'été est quand même un peu fraîche. Une faible torpeur nocturne persiste encore dans l'air agité. Le volant accélère légèrement au fond de moi et le paquebot continue à entrer. Non que je le vois approcher dans sa distance excessive, mais parce que, assurément, il doit entrer.
Résonance sur Radio B, Invention à deux voix, reçoit aujourd'hui Cécilia de Varine, médiatrice culturelle. Nous venons d'entendre un fragment d'ode maritime écrit par l'écrivain portugais Fernando Pessoa sous le nom d'Alvaro de Campos. Alors continuons notre entretien, Cécilia de Varine. Nous sommes toujours au château de Lusignation Ouche, dans cette belle demeure. Et on évoquait effectivement toutes ces notions de passage, finalement, hein, que peut-être aussi, ou que peut représenter également aussi la porte. Finalement, à quoi elle sert aussi la porte, on pourrait aussi dire aussi comme ça, à transiter, puisque on les passe dans un sens, on les passe aussi dans un autre, avec le connu, avec l'inconnu. Elle peut aussi représenter, on commençait un peu à le dire aussi tout cet ordre-là, une espèce de frontière aussi en même temps, entre ces espaces, entre ce connu, cet inconnu, cet incertain, l'attrayant aussi, quelquefois le douteux, quelquefois le séduisant aussi, quelquefois le surprenant ou l'intolérable. Voilà, quelque chose qui me bouscule tellement, qui m'emmène. Voilà, et ça peut être aussi. Le chez moi, je ferme la porte, c'est chez moi, et voilà, c'est mon petit confort, et je ne vais pas au-delà de ça. Ou le chez soi, avec l'idée que je laisse ouvert, ou que ce soit quelque chose qui va m'amener. Voilà. Alors, effectivement, on sent bien que toutes ces questions-là, elles interrogent aussi la place de l'art, finalement. Des pratiques artistiques dans nos sociétés, ça aussi interroge fortement comment on aménage, comment on organise aussi les modalités de la rencontre avec l'art, comment on accompagne la découverte avec ce que d'autres ont voulu nous faire partager, nous raconter, aussi à travers le récit, la peinture, l'image, la sculpture ou la musique. Et donc du coup... ça interroge finalement les rôles et les enjeux, ce qu'on a commencé d'aborder, de ce que c'est que la médiation et les modalités aussi finalement que peut prendre la médiation en fonction notamment du point de vue de celui ou de celle. Parce que là aussi, on peut avoir une diversité d'approches qui met en place cette action de médiation. Alors, je prenais juste pour nous faire rebondir autour de cela... La médiation, effectivement, elle demande de créer entre le médiateur et le visiteur un terrain commun, partagé, ou chercher à construire une compréhension, justement, commune de l'objet d'art qu'on va voir, qu'on va appréhender. Pour certains aussi, il y a des refus dans l'idée d'imaginer la médiation, de la visite guidée. Certains vont se dire, ça je vais pas rentrer dans cette forme-là qui est plutôt habituelle de ce qu'on peut faire, ou on va préférer peut-être quelquefois la notion d'atelier pour mettre effectivement dans les personnes dans un faire, en tout cas dans un vivre quelque chose par rapport à la démarche. Là aussi se retrouve aussi le principe de mutualiser aussi une connaissance, ou qu'une connaissance elle est un bien commun au départ, et que du coup c'est plutôt dans cette rencontre, dans cette mutualisation de la connaissance des uns et des autres, que l'approche, la connaissance peut-être de l'objet sur lequel je viens rencontrer va se faire et va se construire. Donc du coup, je dirais, il y a des fois des lieux qui peuvent être effectivement sur ce que nous connaissons beaucoup, le fait qu'on va nous guider, nous emmener, nous faire partager des choses, voilà. Et il y a d'autres manières de se dire, tiens, est-ce qu'on va impliquer, sans être démagogique, sans être cherché, et aujourd'hui ce côté du participatif à outrance, aujourd'hui est des fois très questionnant, parce que là aussi peut être instrumentalisateur, et non pas sur un faux participatif. Alors là aussi, il y a, je pense, ça, mais j'aimerais bien effectivement, dans la phase où nous en sommes, peut-être essayer d'approfondir cette notion-là, qui donne des directions effectivement un peu différentes dans la manière d'approcher les choses.
Alors, effectivement, la médiation culturelle, elle invente des formes. Mmh. Pour moi, d'ailleurs, la médiation culturelle, mais ça, c'est peut-être parce que je suis plasticienne au départ et que mon parcours est comme ça, pour moi c'est un acte de création, c'est un acte d'invention, c'est-à-dire qu'on invente quelque chose qui va autoriser une forme d'expérience de l'œuvre artistique, œuvre qui peut être plastique, musicale, n'importe quel champ, n'importe quelle discipline artistique, et du coup je vais inventer une forme. Alors, selon les lieux, selon les institutions, selon les contextes, selon les gens et selon les œuvres. Alors tout ça, ça fait un vaste... Voilà, les données de départ, les ingrédients qu'on a entre les mains font varier énormément de choses. Je ne fais pas la même médiation si je suis avec un groupe d'enfants de maternelle et si je suis avec des personnes expertes d'un domaine, bien sûr, ça paraît évident. Mais je ne peux pas non plus faire la même médiation, même si c'est la même œuvre, si je suis dans l'hôpital psychiatrique ou si je suis dans la salle de concert. Même si c'est le même concert qui est joué. Donc du coup, ça veut bien dire qu'il y a vraiment un ensemble de paramètres à chaque fois que je vais prendre en compte, et que progressivement, au fur et à mesure de l'expérience professionnelle, heureusement, et de l'expérience de pratique, je vais, à mon avis, devenir de plus en plus inventif, c'est-à-dire que je vais voir comment composer le plus justement possible une forme qui va permettre au maximum des gens qui sont là, de vivre un maximum l'expérience qui lui est proposée. Voilà. Mais ça peut prendre effectivement, alors là, dans les musées, la forme classique, c'est la visite même guidée, avant la visite commentée.
C'est ça.
La visite guidée où c'est celui qui accompagne et celui qui sait. Il sait plus que celui qui est accompagné. Et il emmène l'autre. Alors, comme le guide de montagne vous montre le chemin et se met devant vous, il vous dit attention, faites attention, là, il y a un caillou, là, vous allez vous prendre les pieds dans la racine. Bon, ben voilà, là, il dit attention, là, ce tableau-là est particulièrement exceptionnel, ou là, etc. Mais c'est ce qu'on appelait autrefois la pédagogie du doigt tendu, c'est-à-dire il faut voir ça, il faut regarder là.
C'est ça, l'orientation.
C'est ça qui est beau et c'est ça qu'il faut voir. On est effectivement passé à un moment donné, mais je crois que c'est les sciences de l'éducation qui nous l'ont appris aussi. Et l'animation socioculturelle.
Dans les années 80.
Si mal aimé dans le milieu culturel, mais l'animation socioculturelle nous a beaucoup appris. Et elle nous a appris que si les gens n'étaient pas mis en action eux-mêmes, effectivement, on risquait de leur plaquer sur la tête un certain nombre d'informations, comme on renverse un verre d'eau sur la tête de quelqu'un. Mais que finalement, à part être mouillé 5 minutes, une fois sec, tout repartait.
Tout est reparti. Ouais.
Et c'est vrai qu'on l'a vécu plein de fois nous-mêmes,
dans multiples expériences de cet ordre.
Donc du coup, la pédagogie de la main à la pâte, qui va être développée beaucoup dans les sciences, dans la pédagogie des sciences, va nous dire, bah voilà, on va faire un précipité. Alors on se rappelle tous de nos cours de sciences physiques ou sciences nat, on va aller observer la souris et la décortiquer nous-mêmes. Voilà.
Ouais,
c'est tout à fait du même ordre. C'est-à-dire qu'on va faire un atelier de peinture pour mieux comprendre les choix qui sont faits par un peintre. On va faire un atelier de musique pour mieux entendre peut-être ce qui a été cherché par le compositeur. Et du coup, cette pratique de la main à la pâte, alors moi j'y crois beaucoup parce que moi-même, je suis un enfant de cette génération-là, des années 70, que j'ai... je vis mieux l'expérience si je passe moi-même par la main, parce que je suis très manuelle aussi. Donc j'ai tendance aussi à aller un peu dans cette direction-là. Après, il y a des gens qui sont beaucoup plus conceptuels, beaucoup plus intellectuels, des gens qui n'ont pas de problème avec l'abstraction, et on peut leur raconter des choses et puis tout d'un coup ils arrivent tout de suite à en faire les choses. Quoi qu'il en soit, mon devoir est d'arriver à trouver quelque chose qui va permettre à la personne de faire de cet objet artistique quelque chose de culturel en soi. C'est ce passage vers le culturel. C'est pour ça que médiation culturelle, pour moi, est juste dans le terme.
Oui, c'est ça.
Parce qu'on transforme quelque chose en culturel, quelque chose qui est extérieur à moi.
C'est ça.
C'est la première fois que j'entends une symphonie de Beethoven. Je ne connais pas cette chose-là. Elle est étrangère à moi. Et il va falloir que je la fasse rentrer.
C'est ça.
Dans quelque chose que je connais déjà ou que je la mette en résonance.
En tout cas, je peux la mettre en résonance avec des choses que je connais de moi à l'intérieur.
J'ai déjà, par exemple, je ne sais pas, alors je vais m'appuyer sur... Du coup, je suis obligée, moi, médiatrice, de m'appuyer sur ce que sait la personne, sur ce que connaît la personne, sur ce qu'elle a avec elle comme bagage culturel pour pouvoir l'accompagner ailleurs. C'est-à-dire, vous connaissez... Mozart, bon ben alors Mozart c'est pas Beethoven, mais Beethoven c'est tatata. C'est-à-dire de l'accompagner à partir de là où elle est. Lui dis en permanence, ah c'est dommage, vous ne connaissez pas un tel, ça c'est vraiment dommage, parce que si vous le connaissiez, ce qu'on entend quelquefois, j'ai souvenir d'une collègue que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est une conservatrice de musée, qui avait fait une visite sur un tableau dans le musée où on travaillait. La visite devait durer 1 heure. Il y avait 20 personnes devant elle, nous étions devant le tableau, et les 50 premières minutes, elle a parlé de tout sauf du tableau. Et au bout de 50 minutes, elle a dit « Eh bien maintenant, on va pouvoir regarder l'œuvre ». C'est-à-dire que pendant 50 minutes, elle a parlé, elle a apporté des informations sur tout un tas de choses qui n'étaient pas devant nous, et elle nous parlait de choses qu'on devait connaître pour voir l'œuvre. Et ça, c'est une chronique d'un échec annoncé. C'est-à-dire, elle est en train de nous dire que sans elle, on ne pourrait rien voir, que sans la connaissance, on ne peut rien goûter, que sans un certain niveau de savoir savant,
on ne pourra pas appréhender.
Exactement. Et là, c'est une catastrophe, parce que alors là, tout le monde rentre chez soi, et puis bon, alors les moutons sont gardés, mais je veux dire, on ne peut pas espérer. Puis après, il ne faut pas parler de service public. C'est-à-dire que là, on arrive après à des notions vraiment politiques. C'est-à-dire que si on pense qu'effectivement, il est important de mettre autant de millions dans des outils culturels tels que les musées, les opéras, etc., ça veut dire qu'il faut quand même se doter des moyens pour que quand même un certain nombre de citoyens puissent
y aller.
Y aller, voilà, tout simplement. La fenêtre s'est ouverte, on va peut-être passer de la porte à la fenêtre.
Voilà, une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et une fenêtre musicale que je vous propose d'entendre.
Woke up this morning. singing an old Beatles song. We're not that strong, my lord. You know we ain't that strong. I hear my voice among others in the break of day. It's a long, 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 long way. It's a long way. It's a long. It's a long, long, long. It's a long, 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 long. It's a long, long. It's a long, 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 long. It's a long. It's a long way. It's a long, long, long. It's a long way. It's a long, 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 long way. It's a long, 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 long. It's a long way. It's a long. Os olhos da cobra verde. Hoje foi que a reparei. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. It's a long way. It's a long. It's a long way. It's a long, 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 long. It's a long way. It's a long way. It's a long. It's a long, long, long. It's a long, 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 long. It's a long. It's a long way. It's a long. Ah, renego de quem diz que o nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. Ah, renego de quem diz que o nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. It's a long road, it's a long, it's a long road, it's a long and winding road, it's a long and winding road, it's a long and it's a hard word. It's a hard word. It's a hard word. Hard long way. Ah, e se não tivesse o amor? E se não tivesse essa dor? E se não tivesse
Résonance sur Radio B, Invention à deux voix reçoit aujourd'hui Cécilia Devarine, médiatrice culturelle. Et nous venons d'entendre It's a Long Way, interprété par Caetano Veloso. Poursuivons alors, Cécilia Devarine, cet entretien voilà, qui chemine et qui se construit au fur et à mesure de celui-ci, pour On vient d'évoquer assez largement finalement la réflexion sur l'accueil finalement, et que cet accueil il vient aussi, notamment lorsqu'on se, on est dans un lieu de culture et qu'il y a ce travail de médiation qui est donc ce métier, ça vient aussi interroger fortement notre rapport à l'autre forcément. À l'autre, comment redécouvrir l'autre quel qu'il soit, aller le rencontrer quel qu'il soit, quelle que soit sa culture, et que du coup ça nous amène aussi à une notion qu'on pourrait nommer de cette manière, la notion d'interculturalité. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par question d'interculturalité ? Je sais que c'est aussi quelque chose qui vous, aujourd'hui, vous anime beaucoup dans votre questionnement, dans votre recherche et dans votre pratique. Alors, on évoquait les années 70 tout à l'heure par rapport à ça. Ça provient aussi de toutes ces expériences pédagogiques des années 80, hein, également, où là, on commençait, on vient de parler de l'autre, mais du coup c'était comment scolariser aussi, socialiser aussi également des enfants des communautés d'immigrés. Donc là on rentrait dans une dimension encore un petit peu plus différente, et ces expériences visaient à établir une reconnaissance, puis un dialogue, un enrichissement réciproque aussi, donc des cultures concernées. Donc il s'agissait aussi de dépasser les stéréotypes attachés aussi à la vision des autres, des étrangers, considérés comme des populations sans culture digne de ce nom, ou au contraire, au particularisme culturel et raciaux trop marqués. Donc on a aussi un peu cette notion d'interculturalité, on pourrait parler aussi d'interculturel aussi, également. Bon, on pourrait dire comment aussi un ensemble de processus psychiques, relationnels, groupaux institutionnels générés par les interactions de culture dans un rapport d'échange réciproque et dans une perspective de sauvegarde d'une relative identité culturelle des partenaires qui sont en relation. Alors peut-être, si j'entends un petit peu cette question d'interculturalité qui vient fortement un petit peu vous interroger, le fait peut-être, de par votre parcours professionnel d'aujourd'hui, d'avoir été dans tous les lieux qu'on a dit, puis d'être dans des hôpitaux, dans les lieux un peu plus inhabituels, je dirais, de culture, peut-être élargit ce questionnement à cette notion d'interculturalité.
Alors oui, il y a effectivement mon parcours professionnel, il y a aussi mon parcours personnel, parce qu'il se trouve que j'ai vécu dans un pays étranger, qui est le Portugal en l'occurrence, adolescente, que c'est une expérience qui m'a beaucoup marquée, parce que ça m'a définitivement, je pense, décentrée de ma posture de jeune bourgeoise française, voilà, de 15 ans, adolescente, dans un monde de la consommation, et tout d'un coup, ben, j'ai passé les années de mon adolescence dans un pays qui sortait à peine de la dictature quelques années avant, qui était très pauvre, qui était très marqué par... Il y avait Lisbonne, il y avait des bidonvilles tout autour, il y avait un rapport aux choses qui était très différent et qui m'a beaucoup secouée, on pourrait dire. Et du coup, cette question de comment je m'immerge, non, je ne sais pas si c'est français, mais comment je me plonge dans un lieu, dans un pays, dans une langue, dans toute cette étrangeté, parce que j'y vis, et comment je vais, par exemple, pour me mettre à la place d'une mère d'origine étrangère aujourd'hui en France, comment je vais élever mes enfants dans un contexte où je n'ai pas ma famille proche, où je perds complètement mes repères de ce qui fonde pour moi le sens des choses, comment je vais faire, comment je vais mener à bien cette aventure déjà tellement compliquée pour ceux qui sont dans leur propre pays, d'accompagner des enfants vers l'âge adulte et vers l'autonomie d'un regard. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement complexe, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point les gens sont dans des situations de fragilité culturelle et du coup psychique, psychologique. C'est-à-dire, voilà, je pense que à force de mettre le mot culturel du côté de l'art, dans notre pays, quand même, on a un ministère qui nous met toujours le mot culturel du côté de l'art, on finit par oublier que le culturel, c'est ce qui fondamentalement construit mon rapport au monde. C'est la façon dont j'interprète l'invisible à travers du visible, c'est la façon dont je pense la mort, la naissance, la vie, c'est la façon dont je pense le beau et le laid, le haut et le bas, etc. Et que si on me demande de renoncer à ces choses-là qui me sont transmises avec le lait maternel, souvent, avec les berceuses de mon enfance, si on me demande d'y renoncer pour intégrer une autre culture qui soi-disant serait mieux que celle
celle, que celle à laquelle voilà, j'appartiens.
Exactement. Mmh. Si on me demande de faire un clivage entre une culture affective et puis une culture intellectuelle ou théorique ou de l'école, etc., je vais complètement être clivée moi-même. Absolument. Et après, je suis capable des actes les plus répréhensibles avec une totale froideur, on pourrait dire. Absolument. Puisque finalement, je ne joins pas dans mon esprit ce qui fait le sens culturel de ma vie qui m'est transmis par mes pères, P-E-R-E-S, et qu'on me demande par contre de me conformer à un autre, à d'autres fondamentaux qui quelquefois en plus...
C'est l'assimilation.
C'est l'assimilation, l'assimilation forcée. Je pense qu'on a été
assimilation forcée.
Voilà. Et on a été à fond dans cette direction-là, plus ou moins bien, plus ou moins mal. Il y a des gens qui ont fait plein de choses.
Oui,
ça
ne
veut pas dire que personne n'a rien fait.
Absolument.
Ça veut dire que je pense qu'il y a deux ou trois éléments fondamentaux dans notre façon de penser la culture qui sont faussés. Et je crois que nous avons besoin, effectivement, collectivement, d'un décentrement culturel.
Pour revisiter, se dire où sont le sens, vraiment.
Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire à la jonction de deux façons de concevoir le monde différentes ? Et c'est pas évident.
Et c'est pas évident du tout, c'est complexe.
On voit bien au quotidien. C'est pas évident. Si pour moi, un accouchement doit se faire, je sais pas où, à la clinique, parce que je pense que l'hygiène va être la valeur fondamentale pour que l'enfant puisse être dans les meilleures conditions physiques, eh ben, je peux me mettre en contradiction avec quelqu'un pour qui il faut qu'il naisse dans la maison de ses ancêtres et sur le sol de la maison et dans le sable de la maison. Donc comment je fais la jonction de deux mondes et comment j'apprends à travers l'objet artistique et culturel, à travers des formes un peu exceptionnelles de la culture dans laquelle je suis, à pouvoir justement prendre ça comme une sorte de terrain de jeu de la relation avec l'autre qui vient d'ailleurs, qui porte d'autres formes de façon de voir et avec qui je vais pouvoir, à mon avis, tisser de la relation culturelle enrichie.
En évoquant le tissage, du coup, ça me fait penser aussi au métissage, à la pensée métisse, à comment la rencontre avec l'autre, comment la notion de partage, sans compromission, sans se dessaisir de sa propre identité et de ce que je suis. Mais du coup, comment, effectivement, on est sur un terrain fragile. Effectivement, le métissage, c'est quelque chose qui est jamais, qui est tout le temps en changement, qui est tout le temps en mouvement, qui est jamais en finalité. On ne saura pas où il sera. Mais effectivement, est-ce que c'est pas à cet endroit de fragilité que celui-ci nous pose ou nous impose? Parce que si effectivement je rentre dans cet axe de relation à l'autre, je revisite qu'est-ce que peut-être cette qualité de relation à l'autre, il va forcément bousculer un peu mes assises, bousculer mes manières d'être, de dire, ou de langue aussi, à l'intérieur de cette langue, et du coup, me mettre dans cette fragilité, effectivement. Mais on est aujourd'hui aussi dans une société qui refuse, enfin, c'est difficile, en même temps, d'être tout le temps sur cet élément-là. C'est compliqué.
Oui, c'est très compliqué. C'est très douloureux, c'est très compliqué. Il n'y a pas de certitude. Mais
c'est
maintenant que j'habite dans un petit village de 120 âmes, à peu près, perdu au fin fond de la Bourgogne, et que je me rends compte à quel point peuvent se générer des conflits énormes entre des gens du même village qui parlent la même langue, qui ont la même façon à peu près d'élever leurs enfants et qui quelquefois votent les mêmes partis politiques, je me dis que là, voilà, c'est simplement l'être humain qui est en permanence en mouvement à la recherche de la rencontre avec l'autre, l'autre qui commence par son voisin de palier, et c'est pas facile d'avoir un voisin de palier, c'est plus facile de vivre dans un château pour ça, et donc du coup, c'est compliqué, on est constamment en train de se frotter aux autres, et les
Bien
autres
sûr.
C'est pénible, ils sont autres mais voilà, donc il faut quand même qu'on travaille cette question-là un peu en profondeur et qu'on arrête un petit peu cette espèce de discours ambiant qui est toujours finalement, qui rejoint toujours une posture très descendante culturelle qu'on
c'est
a. Bon, je suis désolée, mais on l'a entendu dans la bouche de notre Premier ministre il y a quelques semaines encore,
oui, tout à fait.
Comme si la culture était une chose extérieure à l'individu, que l'individu devait acquérir par force pour pouvoir partager un sens commun. Mais non,
non,
c'est pas ça.
Pas du tout.
Ben non. Non, on est d'abord des êtres de culture et déjà des êtres de culture dès le premier biberon ou dès la première tétée et cet être de culture, il va évoluer, il va se transformer, il va s'enrichir, il va quelquefois s'appauvrir parce qu'il y a aussi
Bien
des
sûr.
Facteurs appauvrissants culturels, il faut pas
Bien
non
sûr,
plus les
tout
nier.
À fait. Tout à fait.
Et ce cheminement là, c'est comme le dragon chinois là, il va passer par différents états. C'est vrai que je me sens plus proche de la pensée d'un Edgar Morin qui va toujours
c'est
aller chercher
lui.
De différents côtés de la forme, avec la complexité, ou même d'un François Julien qui a écrit un petit bouquin tout à fait remarquable, à mon avis, qui s'appelle « Il n'y a pas d'identité culturelle ».
Tout à fait. Je pense aussi à Gilles Deleuze, par exemple.
Oui, tout à fait.
Je reprends juste pour nourrir et faire le contrepoint aux deux philosophes qu'on vient de, sociologues aussi, de nommer, où lui dit aussi ceci, « Ce qui me semble important, ce ne sont jamais les filiations, mais les alliances et les alliages, ce ne sont pas les hérédités et les descendances, mais les contagions, les épidémies, le vent. » Ça rentre aussi, je trouve, tout à fait dans cette manière de retravailler à la fois l'agencement, le territoire, se re-territorialiser ou au contraire déritorialiser. Enfin voilà, il y a toutes ces questions qui sont là en jeu et qui aujourd'hui, je trouve aussi, sont des questions qui peuvent nous aider à essayer de réfléchir à cette question et non pas effectivement ce qui venait d'être dit par notre Premier ministre il y a quelques jours.
Oui, c'est-à-dire que l'image qui me vient, c'est que je pense qu'on doit se sentir tous un petit peu en exil pour pouvoir un peu mieux entendre aussi la parole de ceux qui le sont vraiment. On doit tous intégrer cette dimension-là, parce que si on ne se sent pas en exil, ça veut dire qu'on va commencer quelque chose qui, à mon avis, est le poison le plus fort de notre travail d'interculturalité, qui est « il y a des gens plus légitimes que d'autres pour être là aujourd'hui ».
C'est ça.
Eh bien non. Il n'y a pas des gens plus légitimes que d'autres pour être là aujourd'hui. Mais, alors après, il y a tout un tas de contraintes qui font la géopolitique. Mais en tout cas, ces gens qui sont là, comment je construis avec eux du sens et comment je construis avec eux de l'avenir ? Alors, par rapport à la parole Peul que vous avez citée au début, j'ai plutôt une vision un peu d'une construction de l'avenir plutôt que de... Je ne sais plus comment était...
Oui, il disait le passé, une observation aussi du présent et du passé, une addition des deux pour un devenir.
Attendre l'avenir, non ?
Pour attendre, pour attendre demain.
Et voilà, alors c'est drôle parce qu'effectivement, j'ai du mal à m'imaginer assise devant la porte justement
ça,
à attendre le demain, mais pourquoi pas ? Peut-être que c'est une meilleure posture que celle d'être toujours un peu dans l'action et qui est un peu ma maladie à moi, d'être toujours un peu dans la suractivité. Mais voilà, donc en tout cas, il y a quelque chose à construire pour demain, quoi.
Et en tout cas, pour peut-être aller aussi dans ce sens-là et citer aussi un autre personnage qui je trouve important par rapport à cette notion d'exil, justement, et je pense à Edouard Saïd, par exemple, où il disait que la notion d'exil pourrait être aussi une manière d'aborder aussi toutes ces choses, toutes ces problématiques, notamment, donc, pour préciser, Edouard Saïd, critique, penseur, théoricien littéraire et humaniste, né à Jérusalem, dans la Palestine, justement, mandataire, né en 35 en Palestine, et puis il est décédé en 2003 à New York, et il avait toute cette réflexion sur l'exil qui était aussi assez intéressante, qu'il disait que l'exilé, c'est que dans un monde séculier et contingent, toute demeure est provisoire. Les frontières et les barrières qui nous enferment dans un lieu sûr, un territoire familier, peuvent aussi devenir les limites d'une prison et souvent défendues au-delà de la raison ou de la nécessité. Les exilés franchissent les frontières, brisent les barrières de la pensée et de l'expérience.
C'est vrai, c'est très juste. Et du coup, ça renvoie un peu aussi à ce que disent les Chinois sur l'impermanence, quoi.
Oui.
On n'est que dans des flux, quoi. Alors, c'est très déstabilisant parce que notre pensée culturelle occidentale
n'est pas fondée là-dessus.
Ouais, et pas fondée là-dessus. Voilà. Et quand on est dans un château du XVIIe siècle où tout le monde, voilà, où la moindre fissure fait peur, et on est beaucoup dans la conservation du patrimoine, et on est beaucoup dans quelque chose d'une valeur qui traverserait le temps, comme
ça.
Et en fait, c'est un peu des leurres. Enfin, c'est des illusions. Oui. Alors, c'est des illusions dont on peut faire, à mon avis, de très grandes choses, mais il ne faut pas oublier que ce sont un peu des illusions. On est en perpétuel mouvement. On n'est que du flux qui passe.
En changement et en mouvement permanent.
Et la rivière qui passe dans le parc.
Elle indique ça, finalement.
Ben voilà.
Elle nous indique que finalement tout est mouvement, tout s'écoule, tout est en train de bouger de toute façon, imperceptiblement des fois, mais ça reste en mouvement. Nous voici, Cécilia de Varine, au terme de cet entretien, de cette invention à deux voix. Mille merci pour ce moment, en plus dans cet espace de conversation, mais comme on veut peut-être l'entendre au 18e, de mise en mouvement là aussi de la parole et de ce mouvement. Donc merci de nous avoir accueillis encore une fois dans ce château de Lusigny-sur-Ouche. Cette émission a été réalisée avec la complicité à la régie générale et à la réalisation et à la mise en onde par Simon Deborne. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr écouter la présente émission quand vous voulez et où vous voulez, aussi longtemps bien sûr que vous le souhaitez, en la podcastant sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Très belle journée à l'écoute de Radio B.